Bonjour. Je remercie d'abord Françoise qui m'a gentiment invité pour faire ce séminaire à la suite de son cours. Et je remercie vous tous qui avez réussi à venir. Comme moi, j'ai mis un peu de temps pour venir d'Orsay. Donc, je vais vous parler de certains aspects liés à la partie plutôt traitement du signal, comment on arrive à extraire le signal par filtrage, en particulier pour ce signal à 21 cm cosmologique. Donc, je vais probablement redire certaines choses que Françoise a dites, probablement beaucoup moins bien, mais bon, vous m'excuserez s'il y a un petit peu de répétition. Donc, voici le plan de mon exposé. Je vais d'abord rapidement rappeler pourquoi on voudrait observer le H1 extragalactique, donc les motivations et ensuite les difficultés associées. Puis il y a une partie peut-être un petit peu plus ardue où je vais mettre des formules pour dire comment on fait pour aller des observations jusqu'aux paramètres physiques qui nous intéressent. Et puis je me concentrerai sur deux des aspects que Françoise a déjà présentés. La question de comment on arrive à reconstruire les cartes à partir des observations interférométriques, ça veut dire une image du ciel. Et ensuite, la question de séparation des avant-plans ou séparation des composantes, c'est-à-dire comment on arrive à extraire ce signal qui est beaucoup plus faible que les émissions d'avant-plan. Donc, pour le signal à 21 cm cosmologique, comme vous avez pu voir, ça permet d'aborder de nombreuses questions en cosmologie et en astrophysique. La question de la formation et évolution des galaxies, le rôle du gaz dans la formation stellaire, puisqu'on arrive à voir le gaz avec le gaz atomique, l'hydrogène atomique neutre, grâce à cette émission ou absorption à 21 cm. Et on va pouvoir observer l'évolution des structures durant les âges sombres, ce moment où il n'y a pas d'autres lumières, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies. Et puis évidemment, cette question qui intéresse beaucoup de gens en astrophysique pour comprendre les mécanismes de la formation des objets et des galaxies. Et puis, il y a donc l'histoire de la rayonisation. Et en cosmologie, moi je fais plutôt, disons, la cosmologie dans un moment plus récent de l'univers, on va pouvoir observer la structuration de l'univers et son évolution durant l'histoire cosmique, et ça va nous renseigner sur le modèle cosmologique et ses paramètres. Donc, voici sous forme d'un dessin schématisé, des choses, je pense, que Françoise a déjà expliquées. Donc, vous le savez tous, évidemment, l'univers, et nous vivons dans un univers en expansion. Dans un passé lointain, l'univers était beaucoup plus chaud. Il y a des moments où il n'y avait même pas les noyaux atomiques, c'était une soupe de quarks. Puis les noyaux atomiques se sont formés et les premiers noyaux légers, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, le BBN. Et puis l'univers a continué à son expansion, devenant de plus en plus froid. Petit à petit, les premiers atomes ont pu se former, c'est-à-dire les électrons qui étaient à ce moment-là libres, enfin libres, disons, dans un plasma, ont pu se combiner aux noyaux atomiques. Et l'univers devenant neutre, c'est à ce moment-là qu'on a l'émission du fond diffus cosmologique, là aussi un sujet probablement que vous connaissez, qui est arrivé quelque chose comme après 380 000 ans, il y a donc presque 13 milliards d'années. L'observation de ce fond diffus cosmologique nous donne beaucoup d'informations sur le modèle cosmologique et l'évolution de l'univers. Et à partir de ce moment-là, s'en est suivi un long moment où il n'y avait pas d'univers, pardon, il n'y avait pas d'univers, de lumière, l'univers y était, et c'est ce que l'on appelle les âges sombres. Donc ici en bas, j'ai mis l'axe Z en redshift, le décalage vers le rouge, et j'ai mis d'autres valeurs, la température correspondant de l'univers, la température moyenne, l'âge, et puis la densité de l'univers. Donc comme vous voyez, la densité diminue à ce moment-là, au moment du découplage, ça veut dire au moment où les photons du fond diffus ont pu se libérer et se propager librement parce que l'univers est devenu où les atomes se sont formés et donc le plasma s'est transformé en un gaz neutre. La densité était quelque chose comme 330 ou quelques centaines d'atomes par centimètre cube, alors qu'aujourd'hui, on est à des densités de moins de... Il faut quelque chose comme 10 puissance 7 cm cubes pour arriver à avoir un atome dedans. Et puis, donc, l'univers s'est refroidi. Aujourd'hui, effectivement, la température du fond diffus est à 2,7 Kelvin, alors que c'était 1100 fois plus grand, à 3000 Kelvin à ce moment-là. Et puis, donc, quelque part, vers des décalages vers le rouge de quelques dizaines, nous avons eu la formation des premières étoiles et galaxies. Et il y a eu donc la rayonisation qui s'étale autour du redshift 10. Ça, c'est un peu décalé, mes dessins. Ça doit être un peu plus à droite. Et puis, sur un moment beaucoup plus récent, c'est-à-dire des décalages vers le rouge autour de quelques unités, 1 à 3, l'expansion de l'univers est dominée par l'énergie noire, je vais revenir sur cette question, et c'est ce qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, je dis quelques mots du modèle cosmologique. Nous avons aujourd'hui, grâce à des observations aussi bien en optique que du fond diffus cosmologique et dans les différents domaines de longueur d'onde, un modèle qui décrit très bien la genèse et l'évolution de l'univers. Et ce modèle ne possède qu'un nombre réduit de paramètres. Dans ce cas-là, ici, dans le cas du modèle Lambda-CDM, ça veut dire un modèle dont la densité de matière est dominée par ce que l'on appelle la matière noire froide, plus cette chose que l'on appelle éventuellement énergie noire ou une constante cosmologique. Donc il n'y a que 6 paramètres dans ce modèle. Disons, il y a des modèles autres, on peut rajouter des paramètres, mais il y a un nombre réduit de paramètres. Mais les deux questions qui se posent, c'est que pour que ce modèle fonctionne, il faut supposer qu'il existe une forme de matière qui n'est pas de la matière ordinaire, on ne sait pas de quoi elle serait formée, qu'on appelle matière noire, qui interagit gravitationnellement, comme la matière ordinaire, et qui pourrait avoir une interaction extrêmement faible au niveau de l'interaction faible avec la matière ordinaire. Et puis, il y a une autre composante. Alors, soit on peut dire que c'est une constante cosmologique ou éventuellement une autre composante de densité de l'univers qui se comporterait comme constante cosmologique et qui serait responsable de l'accélération de l'expansion cosmique qui est visible sur un passé récent en termes cosmologiques à z égale quelques unités. Donc, pour répondre à ces questions, éventuellement la nature de la matière noire, la nature de l'énergie noire, ou plus exactement, est-ce que l'énergie noire s'est toujours comportée comme une constante cosmologique au cours de l'histoire de l'univers ou pas, on va vouloir étudier, analyser ce qui s'appelle les grandes structures. L'univers à très grande échelle, au-delà du gigaparsec, est effectivement... Enfin, disons, ça c'est un principe cosmologique, mais quand on l'observe, on observe qu'effectivement c'est assez homogène et isotrope à très grande échelle, mais c'est structuré à plus petite échelle, donc depuis des échelles de quelques centaines de mégaparsecs, donc en particulier l'échelle des BAO, puis les amas de galaxies autour d'une dizaine de mégaparsecs jusqu'aux galaxies et puis jusqu'aux étoiles, la structure est, l'univers est structuré. Le dessin qui est représenté ici, c'est une projection de la densité de galaxies. Il y a beaucoup de points sur ce dessin. C'est une tranche de l'univers. Et l'axe ici correspond au redshift. Là, ça correspond à l'angle horaire et ça correspond à une petite bande en déclinaison. Ça vient des données du relevé optique STSS. C'est un relevé qui a été mené pendant de longues années par une équipe essentiellement américaine, mais dont les données sont publiques et qui a permis vraiment des observations et des analyses extrêmement intéressantes. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'effectivement, quand vous voyez ça, vous voyez bien que les galaxies ne sont pas distribuées aléatoirement. Il y a des zones sous-denses et des zones denses, et ça correspond donc aux structures qui se sont formés au cours des âges gravitationnels par effondrement gravitationnel. Et l'observation de ces structures, de leur caractère, des caractéristiques statistiques et des échelles particulières associées, et leur évolution au cours de l'histoire cosmique, nous renseigne sur l'interaction gravitationnelle et donc, entre autres, sur le fait que est-ce qu'il y a de l'énergie noire, est-ce que ce n'est que la constante cosmologique, est-ce que la théorie de la relativité générale qui décrit donc l'interaction gravitationnelle, est-ce qu'on observe ou pas des écarts par rapport à cette théorie, donc il y a des théories alternatives, gravité modifiée et autres. Donc, on observe ces structures-là en optique, mais on peut aussi les observer à 21 cm. Et donc là, j'arrive au point où je vais essayer de vous décrire pourquoi c'est intéressant, mais en même temps difficile d'observer ces structures à 21 cm. Donc, à bas redshift, l'essentiel de l'hydrogène atomique se trouve plutôt dans les galaxies, puisque en dehors, comme Françoise vous l'a expliqué, la rayonisation par des sources lumineuses a fait que le gaz neutre s'est retrouvé ionisé. Et donc, il y a cette transition hyper fine à 21 cm qui permet de voir, entre guillemets, directement ce gaz hydrogène atomique neutre. Donc, le gaz représente en général entre 10% et 50% de la masse dynamique des galaxies, ça veut dire la masse qui contient la matière noire qui serait dans les galaxies. Et la masse du gaz, c'est aussi 10 à 30-40 % de la masse du gaz total dans les galaxies. La puissance qui est émise, en supposant qu'effectivement ça soit tout en émission, par rapport à comparer à la puissance solaire, c'est beaucoup plus faible, c'est normal, la différence de niveau d'énergie est beaucoup plus faible comparé au niveau atomique. Donc on a 8-9 ordres de grandeur entre l'émission à 21 cm par rapport à l'émission en optique pour la même masse. Là, j'ai pris une masse solaire de gaz H1. Par contre, et puis j'ai indiqué la densité des galaxies, mais je ne vais pas dire, si maintenant je prends une galaxie et que je mets cette galaxie, on va dire à une distance cosmologique, même pas très loin, un redshift de 0,3, ça représenterait, ce serait à 1500 mégaparsecs, l'émission 21 cm, en supposant que j'ai 10 puissance 9 masse solaire de H1, c'est déjà une masse considérable, ça représente 3 10 puissance 27 watts, ça c'est la puissance émise, mais la puissance que l'on va recevoir sur Terre, ça ne représente que 10 moins 24 watts par mètre carré, et cette puissance-là serait grosso modo répartie sur une bande de l'ordre de 1 MHz. Ce qui revient à dire que l'on reçoit quelques photons à 21 cm, par mètre carré par seconde. Et l'unité que l'on utilise en général dans ce domaine-là, c'est des Jansky. Jansky, c'est 10 puissance moins 26 watts. C'est que donc cette galaxie-là, on va recevoir une densité de puissance de 100 microJansky. Alors que si je prends la même galaxie en optique, on va avoir de l'ordre de 10 puissance 9 à 10 puissance 10 luminosité solaire, ce qui revient à dire qu'on a 10 puissance 35 watts de puissance émise, et ce que l'on reçoit sur Terre, évidemment, c'est le même rapport, mais on reçoit entre 10 puissance moins 16 à 10 puissance moins 17 watts par mètre carré. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais ça représente quand même 10 photons par mètre carré par seconde. Et les photons optiques, on peut quasiment les compter. Si je prends un CCD de type astronomique, je mets un miroir qui n'est même pas immense, 10 mètres carrés, je vais recevoir 100 photons par seconde, qui vont se répartir sur quelques pixels que je peux lire avec un bruit de lecture de quelques électrons. Donc, en fait, c'est effectivement très facile aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années, de voir une galaxie en optique avec un télescope de 3-4 mètres de diamètre. C'est facile. Et en radio, c'est beaucoup plus difficile. Et si je traduis ça en tenant compte du bruit de lecture, donc dans le cas, j'ai dit, les détecteurs optiques, les CCD ou même si j'avais besoin d'aller plus loin, des détecteurs intensifiés comme des photomultiplicateurs, etc., ont des bruits de lecture extrêmement faibles. Ce n'est pas le cas dans le domaine radio où l'observation se fait en détectant l'onde. Ça produit un courant, ça a ses avantages. Et donc là, je les ai traduits en niveau de détection et en tenant compte de, disons, du bruit, on peut dire du bruit instrumental qu'on exprime sous forme de température système, puisqu'on ramène la brillance à une température, et donc le niveau de bruit aussi est ramené à une température équivalente. On s'aperçoit qu'effectivement, pour détecter une galaxie à 21 cm, on aurait besoin d'une surface de collection de l'ordre de 100 000 mètres carrés. Donc, Françoise, tout à l'heure, vous a montré le grand radiotélescope de Nancy, qui est effectivement un très grand radiotélescope, ça fait 7 000 mètres carrés, et SKA veut dire Square Kilometer Array. Je vous montre deux photos. Alors, ces deux photos moins récentes, celle-ci, c'est le grand radiotélescope, on va dire, qui pendant longtemps a été le plus grand au monde. C'est un miroir, ou en tout cas un collecteur de lumière qui fait 300 mètres de diamètre. C'est à Arecibo. Pour les fans de films de James Bond, ça a servi aussi comme cadre pour l'un des films. Et ici, vous avez donc le même principe que ce que vous avez vu pour Hera. Il y a le récepteur qui est là. Ce miroir est construit dans une dépression naturelle et le miroir, il est fixe. Et donc, le ciel passe devant. On a une petite marge. Et en Chine, il existe un modèle récemment construit, beaucoup plus récent que le télescope d'Arecibo, qui est un peu plus grand, pareil, construit dans une dépression naturelle. Et donc en bas, on a la photo du VLA, donc pareil de nouveau aux États-Unis pour Very Large Array, donc avec un ensemble de réflecteurs. Chaque réflecteur, je ne me rappelle pas de la dimension, doit faire au moins 20 mètres ou plus, donc c'est quand même des grandes antennes. Et en assemblant, en mettant en commun, et on va en parler grâce à l'interférométrie, un ensemble de réflecteurs, on va pouvoir atteindre des hautes résolutions angulaires, mais aussi une sensibilité suffisante. Donc bon, ce tableau-là, je ne vais pas le discuter, c'est une comparaison de différents relevés. Mais ce que l'on voit, c'est par exemple ce relevé alpha-alpha qui est mené avec le grand télescope, là, celui que vous avez vu à Arecibo, qui est quand même, on peut dire, l'un des plus grands ou qui a été pendant longtemps le plus grand au monde. Et on détecte des objets. Et c'est une représentation similaire à celle que j'ai montrée précédemment, où on voit chaque point, ça correspond à une galaxie. Cet axe-là, c'est l'angle horaire, donc une certaine direction sur le ciel, et on prend une certaine tranche en déclinaison. Et l'autre axe ici est étiqueté cette fois-ci en vitesse relative, kilomètres par seconde, mais ce qui revient à dire redshift, puisque redshift ou vitesse, on peut l'interpréter sous forme de vitesse. Et vous voyez que l'extrémité de l'axe ici, c'est 15 000 km par seconde, c'est Z égale 0,05. Donc effectivement, ça va un peu plus loin, mais même avec Arecibo, on arrive à détecter des objets jusqu'à Z égale 0,2, maximum 0,25. Or, distance cosmologique, c'est Z égale 1, Z égale 2, Z égale 3. Donc, il faut arriver à détecter les objets plus loin, soit en augmentant la surface de collection, d'où SKA, soit en étant peut-être plus malin sur d'autres aspects. Donc, si je compare les observations de 21 cm comparées à l'optique, peut-être il y a des gens qui sont astronomes amateurs ou astronomes professionnels dans la salle, la radio permet de faire des observations spectrophotométriques, ça veut dire mesurer le spectre en même temps qu'on fait la photométrie, parce que l'array à 21 cm est la seule signature spectrale dans une large gamme de longueurs d'onde, alors que quand on observe en optique, il y a de nombreuses raies, et on peut avoir une confusion qui rende l'interprétation difficile, l'interprétation spectrale. Donc, évidemment, si je prends, par exemple, une bande de fréquence entre 100 MHz et 1500 MHz, je vais couvrir quelque chose en redshift de Z égale 0 jusqu'à plus de 10. Un effet qui limite, ou en tout cas qui rend un petit peu difficile le travail en radio, c'est que la résolution des instruments radio est limitée par la diffraction. Donc, une antenne ou un réflecteur de 100 mètres de diamètre à 700 MHz aurait qu'une résolution de 20 minutes d'arc, alors qu'en optique, évidemment, on est, même avec un télescope de 1 mètre, on est déjà à la résolution limite que permet l'atmosphère, ça veut dire une seconde d'arc, ça veut dire la résolution intrinsèque optique est meilleure que ça. En optique, on ne peut mesurer l'intensité directement parce qu'on ne peut pas mesurer la phase, alors qu'en radio, on mesure l'amplitude et la phase, donc ce qui permet de faire de l'interférométrie et de la spectroscopie. Dans le cas des instruments optiques, j'ai déjà dit, Le bruit instrumental est souvent négligeable, le détecteur ou l'électronique, mais en radio, ça peut être dominant. En optique, on est gêné par la pollution lumineuse et la diffusion atmosphérique en optique, alors qu'en radio, on est gêné par les interférences dites électromagnétiques et RFI, qui sont en grande partie dues aux émissions terrestres. Eh bien, il y a aussi l'ionosphère qui peut nous gêner. Alors, tout à l'heure, Françoise parlait des satellites, tout ça, qui nous polluent en radio, mais comme il y a des entreprises d'Elon Musk et autres qui prévoient d'envoyer tout un essaim de satellites pour couvrir, pour donner accès dans des coins reculés à Internet, c'est non seulement on va avoir la pollution RFI, mais on va aussi avoir le ciel nocturne qui va devenir constellé d'étoiles artificielles, tellement qu'il sera difficile après de faire des observations optiques. Ça, c'est effectivement, comme je travaille aussi dans la DCST, c'est une inquiétude, parce que s'ils envoient vraiment le nombre de satellites qu'ils prévoient, sur toutes les images, on va avoir plein de traces des satellites. Bon, la cartographie 3D, tout à l'heure, j'ai dit qu'observer des galaxies individuelles était difficile. Par contre, pour ce qui concerne la cosmologie, on peut observer, au lieu d'observer individuellement les objets, on va pouvoir observer l'émission agrégée d'un grand nombre de galaxies dans des petits volumes d'univers sans détecter les sources individuelles. Il faut un instrument avec un grand champ de vue instantané, une grande largeur de bande pour que ça corresponde à de grands volumes d'univers. Et aujourd'hui, on va dire depuis 20 ans, c'est le cas par exemple de l'OFAR ou d'autres instruments, ce sont des interféromètres numériques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner les signaux numérisés par calcul dans des ordinateurs, ce qui donne une grande flexibilité. Mais évidemment, ce n'est pas si facile parce que ça nécessite de traiter au vol de très grands flots de données, plusieurs téraoctets secondes. Bien, on peut aussi avoir un grand réflecteur équipé de récepteurs multilobes. Les problèmes que l'on doit attaquer ou pour lesquels il faut trouver des solutions, c'est la question du bruit instrumental, donc la question de T6. Donc on va avoir besoin d'observer, d'intégrer longtemps et avoir confiance que l'instrument reste stable. Le problème des avant-plans, les émissions diffuses galactiques et les radiosources sont beaucoup plus intenses que l'émission 21 cm, que ça soit proche, ça veut dire à z égale 1 ou à z égale 10. Et il y a des questions de calibration, donc Françoise en a parlé, et donc on peut y répondre de différentes manières, les RFI, l'ionosphère et tout ça. Donc, pour résumer, quand on observe à 21 cm, donc ça c'est de nouveau, on va dire, une direction, c'est la ligne de visée, c'est ce qui correspond au redshift, et puis les deux autres directions correspondent aux angles sur le ciel. Donc, le redshift, c'est la fréquence d'observation et la position angulaire des objets est déterminée par imagerie, comme on fait en optique. Dans le cas en optique, on fait d'un côté l'imagerie et de l'autre côté, on fait la spectroscopie pour déterminer le redshift. Et ici, on peut faire les deux en même temps. Soit en utilisant un grand réflecteur primaire. Donc, à ce moment-là, on peut cartographier le ciel soit en mode dit drift scan, on laisse le ciel défiler, ou bien on vise et on balaye le ciel avec une certaine stratégie de balayage. On obtient alors des cartes du ciel et en même temps donc le spectre. Ou bien on utilise des interféromètres et les interféromètres ne nous donnent pas directement l'image du ciel, nous donnent des visibilités que je vais expliquer, cela correspond à des signaux de corrélation à partir desquels il faut construire les cartes du ciel. On va voir que pour certains modes d'observation, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un avantage pour observer disons, une observation complète en est-ouest et je reviendrai sur ce point-là. On peut aussi dire que les visibilités correspondent au mode de Fourier transverse. Là aussi, je vais revenir sur cette question de mode de Fourier transverse et longitudinal. Le problème vient de la difficulté d'extraire le signal qui est 10 puissance 3 à 10 puissance 4 fois plus faible, moins brillante que la lumière, pas de notre salle, mais la lumière du ciel nocturne dans le domaine radio. Et disons, La méthode que je vais donc décrire, ça correspond à trouver des bases appropriées pour projeter le signal dessus pour soustraire les avant-plans. Cette question de, disons, c'est à peu près ce que j'ai déjà dit, que la résolution dépendait de la taille et en plus, cela va la résolution angulaire dépend de la taille de l'instrument et ceci se traduit par une résolution en termes de taille ou de longueur sur le volume cosmologique qui va varier avec le redshift. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'avec un réseau d'une centaine de mètres, donc qui a une résolution angulaire donc qui est donnée par lambda sur L, la résolution transverse de l'instrument va se dégrader. Ça correspondrait à quelque chose comme 8 mégaparsecs à z égale 0,5, ça passe à 20 mégaparsecs à z égale 1 et à 45 mégaparsecs à z égale 2, alors que même avec une résolution spectrale de l'ordre de 100 kHz, qui n'est pas une grosse résolution spectrale pour la radio, on va garder une excellente résolution le long de la ligne de visée. Ça, c'est parmi aussi les difficultés à prendre en compte quand on fait l'analyse. L'univers potentiellement accessible à 21 cm est très grand. Donc ici, c'est une vue schématique où on a mis le fond diffus cosmologique comme une certaine horizon. Et ensuite, c'est à peu près, les surfaces sont à peu près proportionnelles au volume qui correspond, la période correspondante de l'univers, donc les âges sombres, la rayonisation, et ensuite le moment où on a les galaxies qui se sont formées. Et ce domaine-là, en rose, c'est plutôt l'objet des études ou des observations en optique, et en radio, nous pouvons couvrir l'ensemble de ce volume-là, depuis là jusque-là. Évidemment, ce n'est pas si facile, mais si on arrive à le faire, ça apportera énormément d'informations pour la cosmologie et l'astrophysique. Alors, Françoise a montré un certain nombre d'instruments, j'ai aussi montré des exemples d'instruments, et puis en travaillant sur ces questions de cartographie d'intensité, nous avons travaillé sur des réflecteurs cylindriques et d'autres choses, et puis s'est aperçu que peut-être qu'une solution serait d'utiliser un grand nombre de réflecteurs de petite taille, on va dire paraboliques ou se rapprochant de paraboliques. J'avais essayé de vendre le concept est le nom pour RED, pour Radio Array of Inexpensive Dishes, mais ça n'a pas pris. Mais le concept va peut-être fonctionner. Donc, cette photo-là, vous l'avez vue, c'est effectivement ERA qui est en fait aussi, comme Françoise l'a dit, l'assemblage de dipôles, c'était une solution envisagée qui continue à être utilisée. Et là, la solution qui est prise, c'est effectivement un nombre assez important de réflecteurs paraboliques ou sphériques. Donc ici, chacun fait 14 mètres de diamètre. Et là, vous avez la comparaison entre un réflecteur de ERA, une station LOFA et puis une tuile de MWA et les dipôles de Paper en termes de taille et la configuration du réseau complète. Là, donc, le réseau en cours d'assemblage, c'est quand même bien avancé. Un mot sur l'intensité du signal et le fait que les avant-plans sont importants. Tout à l'heure, je vous ai essayé de dire quelle était l'intensité d'émission si je prenais une galaxie à 21 cm comparée à l'optique. Si on ne s'intéresse pas, si on n'essaye pas de regarder les galaxies individuellement, ce qui est aussi le cas de ce que les gens essayent d'observer avec LOFAR ou ERA ou MWA, on va essayer de reconstruire une carte du ciel, et donc ce que l'on va voir, c'est des variations d'intensité d'un élément de résolution à un autre. Et ça, on arrive à le caractériser, l'autre manière de le caractériser, c'est avec le spectre de puissance, ça veut dire on passe du domaine angulaire, où j'ai chaque pixel, donc avec une taille spécifique qui va correspondre donc, à la résolution du pixel, je vais passer dans le domaine de Fourier, c'est-à-dire des fréquences angulaires, et je vais pouvoir caractériser la réponse de mon instrument là-dedans. Je vais pouvoir dire quelle est l'intensité du signal émis, donc c'est pour ça qu'on parle en général du spectre de puissance, et l'intensité du signal, c'est de l'ordre de quelques millikelvin. Après, ça dépend de l'élément de résolution, etc. Et ça, à comparer à des avant-plans donc quelques millikelvin. Alors ça va varier suivant la fréquence, c'est-à-dire le redshift à laquelle on se place, aussi bien les avant-plans que le signal H1 cosmologique. Et ce que l'on a ici, c'est les cartes d'avant-plan. Alors ça doit être à 408 MHz. Et donc l'échelle ici en température, les zones les plus froides du ciel sont à 10 Kelvin, donc à 400 MHz. C'est un peu plus froid lorsque l'on se place à 800 MHz ou à 1 GHz. Et puis les zones les plus chaudes, donc ça correspond à la trace du plan de la galaxie. Ici, nous sommes dans une représentation où on est en coordonnées équatoriales, ça veut dire correspondant à ce que l'on obtient lorsque l'on observe depuis la Terre. Et donc, ce plan de la galaxie se retrouve ici, tordu, sous cette forme-là. Il y a d'autres images que je montrerai où le plan de la galaxie se trouve dans le plan équatorial de la carte. Donc, effectivement, à une centaine de Kelvin pour ce qui est des zones les plus chaudes. Et la température est encore plus élevée quand on va à plus basse fréquence. Donc, comment on arrive à extraire ce signal faible? Ça, ce sera l'objet de la dernière partie. Donc, un petit peu de formalisme, ou donc on peut dire de théorie derrière. Comment on fait pour aller des observations aux paramètres physiques? En général, on va vouloir répondre à des questions du style sur quelle période et comment s'est déroulée la rayonisation, ou bien l'effet de l'énergie noire sur l'évolution de l'univers. Et donc, ceci, on le traduit en termes mathématiques en disant, voilà, nous avons un ensemble d'observations, D, qui peut être un grand ensemble, hein, je veux dire, chaque carte représentera des millions de points de mesure et on aura un ensemble de cartes, donc facilement on atteint quelques dizaines de millions, voire centaines de millions de mesures individuelles ici. Et nous avons une hypothèse ou un modèle H avec ses paramètres W et il y a un lien probabiliste entre les observations et notre modèle. Alors le lien est probabiliste au moins parce que ce qui est les incertitudes de mesure, ça veut dire le bruit, on le représente de manière statistique, mais il peut y avoir une représentation statistique intrinsèque qui relie vraiment le modèle et les observations, même indépendamment des erreurs de mesure. Et à partir de ça, nous, on va vouloir trouver quelle est la valeur des paramètres, ou bien simplement répondre, est-ce que notre modèle est juste ou pas? Est-ce que ce modèle A est favorisé ou pas par rapport au modèle B? Alors, bon, il y a l'approche bayésienne, l'approche fréquentiste, mais grosso modo, on va vouloir passer du fait que nous avons mesuré, pardon, ici, ce que l'on a, c'est des données, et nous pouvons écrire la probabilité d'avoir eu ces données en fonction de nos hypothèses, et donc on va inverser ça pour donner quelle est la probabilité que les paramètres aient telle valeur. Alors, en général, on détermine aussi quels sont les paramètres qui représentent au mieux les données. Donc ça correspond à maximiser cette probabilité. Donc cette probabilité, souvent, on l'appelle likelihood pour la vraisemblance. Il s'avère que si on avait un ensemble de données indépendantes, en termes probabilistes, la probabilité de l'ensemble, c'est le produit de la probabilité des données individuelles. Comme c'est des produits en général de petits nombres, on prend le logarithme de ça, donc on dit souvent log likelihood, mais enfin, grosso modo, ce que l'on regarde, c'est la vraisemblance, la probabilité des données étant donné une certaine hypothèse. Mais en général, le lien entre l'hypothèse ou le modèle et les observations est beaucoup trop complexe pour qu'on utilise directement cette approche-là. Donc, on est obligé de découper la chaîne d'analyse en plusieurs étapes et à chaque fois un peu digérer les données pour les réduire, de manière à ce que dans l'étape finale, on puisse faire cette comparaison et extraire, répondre aux questions qui intéressent les gens. Existe-t-il des extraterrestres ou bien existe-t-il d'autres planètes et tout ça? Voilà. Mais on est obligé de faire un découpage et faire beaucoup d'étapes. Alors, pour ça, on va souvent faire appel à ce qui s'appelle du filtrage linéaire. Et le filtrage linéaire correspond à estimer un signal à partir d'un ensemble ou d'une mesure bruitée. Alors, il y a la théorie de ça, même si ça a été par la suite beaucoup complété et étendu, c'est le filtrage de Wiener, donc, qui a fait ça, je crois, c'était pour des histoires de canon, pour suivre des choses, pour que le canon tire correctement. Il y a beaucoup de maths derrière. Donc... Et on a Donc des données, des, voilà, je dis d de t par exemple, d d'un paramètre, qui sont la somme du signal que l'on veut, qui nous intéresse, et de bruit. Et nous, on veut estimer à partir de ce d-là, le a, ça veut dire le signal qui nous intéresse. Et grosso modo, ça revient à faire une pondération. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un ensemble de données, vous savez très bien que s'il y a des données bruitées et d'autres données de meilleure qualité, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est de mettre de côté les données bruitées. Si vous avez des données très bruitées et des données de très bonne qualité, ça ne pose pas de problème, vous mettez de côté les données bruitées. Mais si vous avez tout un ensemble de données qui sont plus ou moins bruitées, à quel moment il faut les mettre de côté, à quel moment il faut les garder? Alors, M. Wiener a montré que ce qui était optimal, alors optimal dans le sens ça minimise l'erreur quadratique moyenne, consistait à faire un filtrage, donc convolution, un filtrage linéaire. Ce filtrage linéaire, on l'exprime avec la variable de Laplace si on a, ou équivalent si on est à plusieurs dimensions, mais si j'ai une fonction d'une seule variable, c'est la variable de Laplace. Et ce que j'ai mis ici, c'est, on va dire, la corrélation, ou le spectre de puissance entre les données et le signal, divisé par le spectre de puissance entre les données avec eux-mêmes. Et donc, si je me place dans le cas où le signal et le bruit sont indépendants, et si je suppose effectivement que ces deux admettent une transformée de Fourier, à ce moment-là, le filtre de Fourier dans l'espace de Fourier correspondant s'écrit simplement sous forme du rapport. Donc, ce terme-là, c'est la puissance que j'ai dans mon signal divisé par la somme de la puissance que j'ai dans mon signal plus la somme de puissance que j'ai dans le bruit. Donc là, vous voyez que effectivement, si je suis à un moment dominé par le bruit, d'accord, grosso modo, j'obtiens 0 sur quelque chose, je vais le jeter, et si je suis dominé par le signal, je vais le garder. Donc, M. Wiener a montré que c'était la pondération optimale pour minimiser l'écart quadratique moyenne, donc c'est souvent ça que l'on fait, même si on fait beaucoup d'approximations. Alors, on peut étendre ça dans le cas où, au lieu de dire nous avons notre d de t qui est simplement somme de a et n, supposons que notre d, que j'écris cette fois-ci sous forme d'un vecteur, donc ici j'ai un vecteur, j'ai mon signal qui m'intéresse, le a, le ciel par exemple, là aussi j'ai un vecteur, alors ces vecteurs peuvent être très grands, hein, mais voilà, j'ai écrit ça formellement, et puis j'ai quelque chose, mon système, sa réponse est linéaire, donc si la réponse est linéaire, je peux le représenter par une matrice ici, et puis j'ai le bruit. Donc là, pareil, quelque chose qui minimise la variance de l'erreur, on obtient que, en faisant l'estimation à chapeau, sous forme de HD, le H s'écrit comme ça, alors ça fait effectivement des opérations matricielles, etc., mais ça revient à faire cette pondération-là, en tenant compte de la réponse que l'on a là. Donc nous, on va appliquer grosso modo ces choses-là, alors plein d'auteurs le font, il y a des variantes, mais grosso modo, ça revient toujours à la même chose. Quelle est la bonne pondération à appliquer? Et encore faut-il savoir dans quel, tout à l'heure, j'ai dit, je peux me placer dans le domaine de Fourier dans certains cas. L'autre aspect, c'est de trouver, mais quelle est la bonne représentation, la bonne base pour séparer les signaux qui nous intéressent du bruit. Avec les observations interférométriques, nous allons avoir la difficulté que ce que l'on observe ici, donc ce qu'on appelle visibilité, donc on va avoir chaque antenne qui va avoir une réponse en fonction de la fréquence, puisque en radio, on suit la forme d'onde, donc c'est une combinaison de fréquences différentes. Ça, c'est le signal ciel, ça, c'est la réponse individuelle en fonction de l'angle, des i de n, et aussi de lambda, ou de lambda, la longueur d'onde, ou de la fréquence, c'est la même chose. Et puis ça, c'est la propagation de l'onde électromagnétique. Cette formule-là, elle est juste, elle est même exacte. Alors, c'est pour ça, c'est un peu compliqué, intégrale double sur les directions pour la fréquence et tout ça. Et donc, la visibilité correspond au signal de corrélation prise entre deux antennes. Et donc, on peut montrer que la visibilité s'écrit, donc, grosso modo, comme ça, la même chose. On introduit l'intensité du ciel. Ici, c'était le vecteur champ électrique. L'intensité du ciel dans une direction donnée en fonction de la fréquence, la réponse combinée pour les deux antennes ou les deux récepteurs I et J en fonction de la direction et aussi de la fréquence. Et ici, c'est le déphasage introduit par la partie géométrique. Alors, quand on a ces données-là, on aura un certain nombre d'étapes de traitement. Je les ai listées ici. Il y a beaucoup de... Il faut s'occuper, il faut nettoyer les données et supprimer les interférences électromagnétiques. On va faire des filtrages temps-fréquence, il faut calibrer. On va vouloir souvent reconstruire des cartes tridimensionnelles du ciel, les deux angles alpha-delta sur le ciel et la fréquence à partir des visibilités. Et puis, il faut ensuite séparer, aller chercher la composante qui nous intéresse, par exemple le 21 cm galactique. Pour d'autres, ce sera les avant-plans et tout ça. Le même problème s'applique, et il y a eu beaucoup de travaux de fait dans le domaine du CMB, et puis ensuite, on va vouloir calculer les spectres de puissance et puis comparer au modèle. Donc moi, je vais me concentrer que sur ces deux aspects-là. Donc, comment on fait pour reconstruire des cartes, donc c'est ce qui s'appelle imagerie, en interférométrie. Donc, alors, de nouveau un peu de formules, c'est les mêmes formules que précédemment, ça c'est les visibilités, donc ça c'est la formule que j'ai déjà indiquée, le signal du ciel d'un côté, la réponse des lobes d'antenne. Alors, c'est une... Et nous, on ne va pas avoir une seule visibilité, on aura tout un ensemble de visibilités chaque fois qu'on a une paire d'antennes, ça nous donne une visibilité. Si vous avez 10 antennes, ça vous donne... pas une centaine, mais enfin 100 divisé par 2, 50 visibilités. Ça veut dire juste avec quelques antennes, assez rapidement, on a un grand nombre de mesures. Donc, il faut donc inverser, alors ça aussi c'est la terminologie que certains utilisent, c'est un problème inverse, puisque ça c'est le problème direct, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est estimer ça à partir de ce machin-là qui est une intégrale. Donc, la technique qui a été développée depuis longtemps, c'était de remarquer que si on se dit... OK, j'ai mes directions, ça correspond à des angles, d'accord ? Je peux toujours, une fonction de n'importe quel nombre de variables, je peux en faire une transformée de Fourier. Donc, du domaine angulaire, je passe au domaine qui s'appelle le domaine des fréquences angulaires. Alors, en radioastronomie, ça s'appelle le plan UV. Voilà. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que le plan UV ? Voilà, c'est juste le domaine des fréquences angulaires. Et puis, on fait la même chose pour l'intensité du ciel. On va le décrire dans ce domaine de plan de fréquence angulaire, le lobe d'instrument. Et donc, ce machin-là, on peut montrer à ce moment-là, donc ça c'est l'expression mathématique, mais qu'une mesure de visibilité correspond grosso modo à une mesure pondérée dans le plan de Fourier. Je vais montrer un dessin, ce sera plus clair. Et donc, depuis longtemps, on utilise à ce moment-là la transformée de Fourier FFT inverse, d'accord, pour aller en sens contraire. Alors, il y a plusieurs difficultés. D'abord, ça, c'est schématiquement la même chose. Donc, vous avez une antenne qui ne mesure pas un point, mais une mesure pondérée, parce que l'antenne a une extension. Plus votre antenne est grande, et plus, en fait, ça couvre une grande zone dans le plan UV. Si vous avez une toute petite antenne, ça va couvrir une toute petite zone. Et puis, vos lignes de base, ça vous permet de couvrir, de placer des points de mesure dans ce plan UV. Donc, premier problème, c'est que ben, même si vous avez beaucoup de lignes de base, eh ben, il reste beaucoup de trous dans ce plan UV. Et si vous avez déjà fait un peu de Fourier, vous savez que quand il y a des trous, ça vous pose beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup d'artefacts quand on va vouloir faire la transformée inverse. Donc, ce problème de couverture de plan UV, pendant longtemps, et ça continue, on peut en partie y remédier avec ce qui s'appelle rotation synthesis. C'est le fait que si vous suivez un certain champ sur le ciel, donc vous compensez la rotation terrestre, vos lignes de base décrivent des arcs dans ce plan UV, donc vous allez pouvoir peupler le plan UV. Ça marche bien. Néanmoins, ça reste des trous, il y a beaucoup de trous quand même qui restent. Et l'autre problème, c'est que ce que j'ai dit précédemment, que ça correspond à un plan UV, c'est pas exact mathématiquement. Si on écrit ça correctement, notre vecteur d'onde là, qui dit l'onde vient d'une certaine direction, a un troisième terme qu'on appelle W, parce qu'on est UV et puis W. Donc ce terme W, quand vous avez un tout petit champ, vous pouvez dire AW est constante et tout ça, mais... En réalité, dès que vous arrivez à des champs de l'ordre de 10-20 degrés, ce terme W, vous ne pouvez plus le négliger et dire « Ah ben, je m'en préoccupe ». Donc, beaucoup de travail aussi a été fait pour étendre ce traitement avec la technique de Fourier et les nettoyages qui vont avec, au cas où, effectivement, le champ n'est pas si petit que ça. Et donc, ça, c'est un exemple ici, donc fait avec les données de l'OFAR, où on montre comme ça reconstruit bien les observations de restes de supernova à 149 MHz. Et ça, c'est un autre exemple où on montre, en faisant mieux ces corrections, on va partir de ces cartes-là, et puis on va les améliorer jusqu'à arriver là. Ces collègues de l'observatoire. Donc, maintenant, donc c'est effectivement quelque chose qui fonctionne néanmoins avec quand même beaucoup de difficultés. Et cette question que Françoise a abordée, il faut bien tenir compte de la réponse de l'instrument et de l'effet de cette reconstruction qui devient à ce moment-là dépendant de la direction. Et donc, c'est assez lourd et délicat. Donc, mais la vraie géométrie du ciel n'est pas une géométrie plane, mais c'est une géométrie sphérique. Et si on a un instrument avec des champs de vue vraiment très grands, il faut aller se placer en géométrie sphérique et écrire les relations en géométrie sphérique. Alors, ici, le schéma, c'est je peux prendre, par exemple, un instrument avec des réflecteurs cylindriques qui vont avoir un champ de vue extrêmement allongé dans une direction. Grosso modo, il n'y a pas de focalisation dans cette direction-là, il n'y a que de la focalisation par là. Ou bien un ensemble de réflecteurs paraboliques ou sphériques qui donneraient plus ou moins une réponse qui est ronde. Donc c'est ça qui est représenté ici. Et si je me place en mode transit, je pose mon instrument par terre, c'est-à-dire quelque part, je n'y touche pas, je ne le bouge pas, mais par contre, la Terre tourne et du coup, le ciel va défiler devant. Et donc, c'est ça qui est représenté ici. Ça, c'était si j'ai un instrument de type cylindre, ou en tout cas qui voit une bande sur le ciel, et donc, évidemment, cette bande va balayer le ciel, ou bien avec un ensemble de dish qui pointent dans une certaine direction, on voit ça, mais pareil, cette partie-là va être balayée, va balayer cette zone-là, va balayer le ciel. Donc, on va partir, donc, ça c'était ce que l'on a déjà discuté, carte du ciel dans le domaine angulaire, donc en géométrie plane, on va aller dans le domaine de Fourier. La sphère, c'est représenté par deux angles, θ et φ, et en géométrie sphérique, ce qui correspond à la transformée de Fourier, ce sont les transformées en harmoniques sphériques, YLM de θ, φ. Donc en φ, c'est juste des cosinus, ça veut dire la même chose que le Fourier 1D, mais de l'autre côté, nous avons des polynômes de Legendre. Et du coup, lorsque l'on regarde quelle est la réponse dans le plan donc, des harmoniques sphériques, c'est L et M, c'est les mêmes L et M que les orbitales atomiques. Dans le plan LM, quand on regarde la réponse d'une paire d'antennes, ça veut dire en termes de visibilité, ça c'est pour l'autocorrélation, effectivement, on couvre une certaine zone là, et puis ça c'est deux autres lignes de base. Ici c'est une ligne de base où on est en mode transit et on a juste deux antennes qui sont alignées selon l'axe nord-sud, et ici on a deux antennes qui sont alignées selon l'axe est-ouest. Ça devient un peu plus compliqué à interpréter, mais ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Donc on va vouloir résoudre toujours ce problème-là, c'est la même chose que j'ai écrite, c'est l'intégrale sur tout le ciel, l'intensité, ça c'est écrit pour une certaine fréquence donnée, à chaque fréquence c'est différent, quand on fait de l'interférométrie, c'est en bande étroite, donc pour une fréquence ou une longueur d'onde donnée ou assez étroite, l'intensité en fonction de la direction du ciel, la réponse de cette paire d'antennes en fonction de la direction du ciel, le terme géométrique, et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va discrétiser ça, on va mesurer ça en fonction du temps, donc le ciel va défiler, on a donc un certain lobe d'antenne, un vecteur qui représente le ciel, on a discrétisé, et si on veut résoudre, trouver le ciel à partir de nos mesures, on va résoudre un système linéaire, toujours au sens de, on va minimiser la variance des erreurs, ou d'une manière ou d'une autre, on va trouver quelle est la solution optimale. Donc, mais le problème, c'est que c'est de très grande taille. D'accord ? Typiquement, si je me place pour faire une ciel de 10 minutes de résolution, c'est même pas énorme, 10 minutes de résolution, avec un interféromètre avec 50 éléments ou 100 éléments, je vais avoir des matrices qui vont faire quelque chose comme 10 milliards sur 10 milliards. Donc ça va être gros, donc il faut trouver une astuce. L'astuce, c'est on va décomposer ça sur la base des harmoniques sphériques et on montre, c'est pas très compliqué, ils l'ont montré cela, que les différents modes M sont alors indépendants. C'est-à-dire à condition que l'on ait fait une observation complète de 24 heures, ou plus que 24 heures, mais au moins 24 heures, et à ce moment-là, chacun des modes M devient un problème indépendant à résoudre, ce qui fait qu'on aura découpé, comme c'est expliqué ici, ça c'est le système en entier avec tous les modes LM. Quand on fait cette décomposition-là, cette grosse matrice se retrouve transformée en une matrice qui est bloc diagonal. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une très grosse matrice à résoudre, on a à résoudre un ensemble de petites matrices. Et ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ça, c'est des exemples. Bon, ce n'est pas des vraies données, mais c'est des exemples de simulation assez détaillée de l'instrument, de comment ça, c'est le ciel tel qu'il serait, enfin, je veux dire, simulé, ça vient des données. Et ça, c'est pour un relevé du pôle nord céleste, mais avec Tian Lai. Ça, c'est dans le cas de cylindres, donc tout le ciel, ou presque tout le ciel, quand même, il y a une zone qu'on ne voit pas, puisque quand on est, sauf si on était à l'équateur, là, quand on est dans l'hémisphère nord, il y a une partie du ciel austral qu'on ne voit jamais, donc ici, ce n'est pas reconstruit. Et là, ici, c'est la qualité de la reconstruction, mais si, même si ça correspond à la suppression des avant-plans. Si j'en viens maintenant à la dernière partie en quelques minutes, de mon exposé, c'est sur la question de la séparation des composantes ou de la soustraction des avant-plans. Donc les avant-plans, nous avons d'un côté, c'est dominé par l'émission de la galaxie, l'émission synchrotron, mais aussi l'émission free-free, et puis il y a les sources individuelles, souvent des sources extragalactiques, et donc là, c'est un modèle d'avant-plan, modèle à haute résolution, à différentes résolutions angulaires. Et donc, on voit que quand on va à haute résolution, il y a plein de sources qui seront là. Et les sources, ça pose problème, effectivement, comme Françoise l'a dit. Quand on fait des observations interférométriques, ces sources-là, si dès que l'on a une petite erreur dans la réponse instrumentale, on retrouve leur contribution partout. Or, comme on cherche des signaux très faibles, ben, ces sources-là posent problème même. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'arriver à des modèle d'avant-plan avec une très bonne résolution. Donc, ça, c'est un zoom. Imaginez que j'aille zoomer sur une petite région, l'une des régions les plus froides là. D'accord ? Ici, c'est quelques degrés sur quelques degrés. Là, c'est 24 heures, quoi. Enfin, 360 degrés. Donc, et il faut prêter attention aux échelles. D'accord ? Je zoome. Donc, même dans les régions les plus froides, la température des avant-plans avec des sources, etc., c'est de 6 Kelvin ou au-delà. Et ça, c'est. Donc, cette fois-ci, ça, c'est une simulation, pas du signal des âges sombres, mais du signal relativement récent à Z égale 1, à 21 cm. Donc, effectivement, ça fluctue, c'est des plus et des moins, ça dépend de la quantité de matière présente. Et l'échelle ici, ce n'est que 1 millica. Donc, vous voyez, il y a un facteur. Plusieurs milliers, voire 10 000 entre l'intensité de ce signal et là. Donc, comment on va s'en sortir? C'est que les émissions d'avant-plan, c'est dominé par le synchrotron, et le synchrotron, ça a une dépendance spectrale assez douce, ça évolue en loi de puissance, et donc, c'est ce qui est représenté ici sur une ligne de visée. Donc, ici, c'est en millikelvin, donc quelques Kelvin, parce qu'on s'est placé à 800 ou 900 MHz. Voilà, 800 à 900 MHz. Et vous voyez qu'effectivement, ça bouge un peu. Et si on soustrait la loi d'avant-plan, une certaine loi de puissance, ce que l'on voit apparaître, c'est effectivement des fluctuations. Et ces fluctuations-là correspondent au signal cosmologique, alors soit de l'époque de rayonisation ou de l'époque plus récente. Donc ça, c'est la clé. Mais il y a une difficulté, c'est la réponse instrumentale. Alors, les gens utilisent le mot mélange de modes, et ce dessin-là l'illustre assez bien. Si on prend, je l'ai dit tout à l'heure, la réponse d'un instrument radio dépend de la fréquence. Donc ça, c'est un lobe instrumental, vous reconnaissez le lobe primaire et puis les lobes secondaires. Et puis, le même instrument, comme c'est limité par la diffraction, à plus basse fréquence, son lobe sera plus large. Si vous avez une source qui est en plein milieu au centre, très bien. Cette source-là, supposons que ça ait une émission plate en fréquence, vous allez le mesurer, vous allez voir une ligne droite. Très bien, pas de variation. Mais si maintenant cette source ne se trouve pas au centre de votre lobe instrumental, mais sur le côté, ce dessin-là le montre bien. Ici, il se trouve que ça s'est tombé sur le deuxième lobe, donc ça a une réponse faible, alors que ici, c'est sur le premier lobe, donc réponse importante. Ce qui fait que bien que cette source-là avait une émission plate, quand on va le mesurer, on va obtenir quelque chose qui varie avec les fréquences. Donc, c'est ce qui introduit un couplage des modes de variation transverse, c'est dans le plan transverse, angulaire, et des modes longitudinales, ça veut dire le long de la ligne de visée en fréquence. Donc ça, c'est un des gros problèmes, on va revenir. Donc, si maintenant on veut soustraire les avant-plans, grosso modo, il y a soit on ajuste des lois de puissance ou des polynômes ou autres le long de la ligne de visée, en fonction de la fréquence, et on soustrait, ou bien on projette le signal sur des bases appropriées. C'est ce qui correspond à PCA, ICA, etc. On projette, comme on a fait tout à l'heure, j'ai dit, si on se place dans le plan Fourier, si c'est bruit et signal qui sont représentés par des processus stochastiques, en se mettant dans ce plan, on peut les séparer. Et là, on peut de nouveau, avec des méthodes du style PCA, Principal Component Analysis, etc., trouver les bases appropriées, les bases où on va projeter de manière appropriée. Donc, et ça, c'est en soustrayant des avant-plans, et ce que l'on voit, c'est avec une réponse détaillée, d'une simulation de la réponse détaillée, donc qui contient ces phénomènes de mode mixing et beaucoup d'autres, le bruit et tout ça, on arrive quand même. Donc ça, c'est le signal simulé. On a ajouté les avant-plans, la réponse instrumentale, etc. Et ça, c'est le signal après soustraction et on reconstruit. Donc, on peut aussi appliquer des filtres, donc binaires et autres. Et là, c'est l'exemple d'un filtrage en cascade. Donc, deux filtres. D'abord, dans le long de l'axe, le long de la ligne de visée, cas parallèle, et ensuite dans le plan transverse. Donc, selon la fréquence en cas parallèle, on va pouvoir séparer d'un côté les avant-plans qui varient lentement avec la fréquence. Donc, on va les mettre à bas cas. Et puis, à haut cas, on va retrouver le signal 21 cm, le bruit. Et ensuite, on applique dans le plan transverse, ça veut dire selon angulaire. Cette fois-ci, on va pouvoir séparer le 21 cm du bruit parce que le 21 cm se trouve à bas cas et le bruit à haut cas transverse. Ça, c'est la même chose techniquement, voilà, c'est compliqué. Je préfère venir sur un mot qui est utilisé souvent, le foreground wedge, donc le coin des avant-plans. Donc, c'est exactement le même phénomène qu'on vient de voir, décrit dans un autre schéma. Cet axe-là, ce sont l'axe U, ça veut dire donc des fréquences angulaires, et de l'autre côté, nous avons la fréquence normale, les mégahertz. Et on l'a dit plusieurs fois, la réponse instrumentale dépend de la fréquence. Donc ça représente des lignes, on va dire, iso-réponse. Et on coupe, vous voyez, ces bandes grisées, on va les couper à différents endroits. Ce qui fait que si maintenant on traduit ce qui arrive dans, si je me place dans le plan K parallèle, c'est donc le long de la ligne de visée, c'est la fréquence correspondante. Je fais de nouveau une transformée de Fourier, cette fois-ci en 3D. J'ai d'un côté la ligne de visée, donc ça c'est une direction, et donc de l'autre côté le plan transverse, ça me donne deux autres directions que j'appelle K perp. Et dans ce cas-là, à cause de cette réponse instrumentale, même si les avant-plans n'ont que des variations lentes, ces variations, plus je vais aller à des fréquences angulaires élevées, ça veut dire des petites résolutions, plus ça va fuir vers les hauts cas parallèles. Donc, du coup, il y a une zone ici, triangulaire, qu'ils appellent wedge, qui est dominée par les avant-plans. Et donc, de l'autre côté, c'est la fenêtre où on peut observer le signal qui nous intéresse. Ça, c'est la même chose avec une simulation où ils ont quantifié le... Donc là, c'est le rouge, c'est dominé par les avant-plans. Et après, on est dominé par le bruit. Et si on fait maintenant, si on va plus loin, pour des gens qui sont très bons en maths, etc., on peut aller chercher, mais quelle est la base qui va permettre la base de projection qui va permettre de séparer au mieux les avant-plans et le signal. Et donc, là, c'est le blabla mathématique qui dit qu'on doit pouvoir trouver, diagonaliser simultanément la matrice de covariance du signal et des avant-plans. Et quand on fait ça, à ce moment-là, suivant le numéro de mode correspondant, on peut voir que les avant-plans vont être dominants dans certains de ces modes et il y aura plein d'autres modes où ce sera le signal qui sera dominant. Et ça, ils l'ont fait en harmonique sphérique. Donc, du coup, l'autre axe, c'est le mode M. Et cet axe-là, ce sont les numéros de mode qu'ils ont trouvés en diagonalisant ce machin-là. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, numéro de mode et puis le mode M. Et puis, on n'a pas jusqu'ici parlé de la polarisation. Les instruments ont une réponse, on va mesurer deux polarisations. Le signal cosmologique n'est pas polarisé, mais les avant-plans sont polarisés. Et donc, ils ont étendu ça à la polarisation. Et ce qui est représenté ici, c'est toujours K parallèle, K perpendiculaire. Et ça, c'est la zone qui est censée être dominée par les avant-plans. Et quand c'est bleu foncé, c'est qu'on va pouvoir mesurer. Par là, on ne peut plus mesurer parce que le bruit domine. Et il montre que si on n'a pas d'avant-plan du tout, très bien, il y a plein d'endroits où on peut mesurer. Si on a des avant-plans non polarisés, effectivement, la partie basse, on perd. Et puis, avec des avant-plans, mais avec la polarisation, en prenant ça correctement en compte, on doit pouvoir s'en sortir. Mais ça, c'est en oubliant les imperfections instrumentales. Par exemple, ce que l'on voit ici, c'est la dégradation lorsque les gains complexes, tout à l'heure, c'était la réponse complète. Or, la réponse de l'instrument, il faut la calibrer, et si on ne la calibre pas parfaitement, ici 10% d'erreur, 1% d'erreur, 0,1% d'erreur, si on a 10% d'erreur, on a perdu partout. Avec 1% d'erreur, on s'en sort un peu, mais avec 0,1%, on est bien. Et là, on voit qu'à haute fréquence, la résolution de l'instrument étant bon, on gagne. Et enfin, je voudrais revenir sur l'OFAR. Donc ça, c'est des simulations faites pour le signal de l'EOR et les avant-plans. Donc c'est un papier qui date de 2008, avec la polarisation ici. Et là, Françoise l'a déjà montré. Donc des limites supérieures sur le 21 cm de l'époque de rayonisation, avec une nuit de données de l'OFAR. Françoise l'a dit, c'est extrêmement difficile. Ils ont l'équivalent de 50 ou 100 fois plus. Il faut améliorer encore les méthodes d'analyse, les méthodes de calibration. Là, il y a un signal qui est détecté, mais qui est plutôt défaut de calibration. Et donc, il y a, je crois, de belles perspectives avec les instruments comme l'OFAR, ERA et SKA, pour le sondage de l'époque de rayonisation. Peut-être aussi une fenêtre complémentaire pour la cosmologie, avec des instruments comme SHIME, Tianlai, IRAX, et peut-être PUMA et SKA. Voilà. Je vous remercie.